Nous prenons au numéro 12, 13, 14, qui sont simplement une explicitation par Maxime de ce que nous venons de voir. En raison de la particularité hypostatique de ses propres parties, des parties qui composent le Christ, qui le distingue de ses pôles d'origine, c'est-à-dire de son père et de sa mère, l'unicité de sa propre hypostase apparaît sans aucune différence. Unique elle est dans l'identité personnelle la plus haute de ses parties entre elles. Les deux parties s'épousent dans ce qu'il y a, dans ce qui différencie le Fils du Père et de l'Esprit Saint, et dans ce qui le différencie de sa mère, de ce qui fait qu'il est un être individuel différent de sa mère. 13. La particularité hypostatique de chacune des parties dont le Christ est composé dans son unité s'unissent en un caractère qui leur est commun. Voilà, c'est ça le mystère de l'icône. Un caractère qui leur est commun. Puisque ce que l'humanité du Christ a de plus particulier va exprimer son unicité trinitaire, hypostatique. Et qui caractérise l'hypostase qu'elle constitue ensemble. Car nous disons que l'unique hypostase est devenue commune à la chair et à la divinité par l'union indicible. 14. L'idiome, la particularité qui distingue chacune des parties de leur essence commune, n'existait pas distincte et pour lui-même, distinguer les autres de la même espèce ou de ce qui existe ensemble avec lui dans l'union qui constitue un tout. Car ce qui existe de façon distincte par soi-même est une hypostase. En effet, on appelle hypostase une essence avec ses idiomes, avec ses caractères. Et elle diffère des autres de la même espèce par le nombre. En revanche, on appelle en hypostasié ce qui n'existe nullement par soi, mais qui est vu dans un autre, comme l'espèce dans les individus sous elle, dans le cas d'une nature composée, ou ce qui est composé avec quelque chose de différent selon les sens pour la production d'un tout, hypostase composée, dont nous n'avons qu'un seul exemple, qui est le Christ. Le Christ est, on disait en scolastique, un singulare tantum, ça veut dire un purement singulier. Il est absolument unique. L'ontologie du Christ est absolument unique. Autant l'hypostasié est différent par les idiomes qui le distinguent des autres de la même espèce selon les sens, autant il est uni selon l'hypostase avec le composé et lui est identifié. Au numéro 15, il va insister sur le fait que la personne composée du Christ n'est pas dite individu. Voyez pourquoi ? Parce que ce qui fait de nous un individu, c'est notre personne humaine. Notre personne humaine est individuelle, et bien ce qui tient lieu de la personne humaine dans le Christ, c'est la personne divine. Et la personne divine n'est pas un individu, sinon on aurait trois dieux. La personne divine est une relation subsistante dans la consubstantialité divine. Donc la personne composée du Christ n'est pas dite individu, elle est sans rapport avec la division qui descend par sous-division du genre le plus général vers la forme la plus spécifique et qui circonscrit en cette dernière sa propre procession. Si vous faites le schéma habituel du genre et de la différence spécifique, etc., vous pouvez encore descendre plus bas, vous arrivez à l'individu. Individu, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être divisé. Et c'est l'être concret, chacun de nous. Nous sommes des êtres humains, mais sous forme concrète et indivisible. Si on nous coupe en deux, on nous tue.
Ça veut dire que le Christ n'est pas un individu,
mais le Christ,
un caractère individuel.
Voilà, le Christ a une nature individuée, mais son existé humain n'est pas clos sur lui-même, mais suspendu, donné, assumé dans la personne divine. Donc, son existé n'a pas cette clôture individuelle qu'a l'individu humain. Si l'un de vous aurait le catéchisme de l'Église catholique ici, en français. voir que c'est très finement dit dans le catéchisme à propos, dans la partie sur le Christ. C'est au numéro 616 du catéchisme. C'est l'amour jusqu'à la fin qui confère sa valeur de rédemption et de réparation, d'expiation et de satisfaction au sacrifice du Christ. C'est sur la partie sur le sacrifice du Christ, dans le traité du Christ. Il nous a tous connus et aimés dans l'offrande de sa vie. Aucun homme, fût-il le plus saint, n'était en mesure de prendre sur lui les péchés de tous les hommes et de s'offrir en sacrifice pour tous. L'existence dans le Christ de la personne divine du Fils, qui dépasse et en même temps embrasse toutes les personnes humaines et qui le constitue tête pour toute l'humanité, rend possible son sacrifice rédempteur pour tous. Vous voyez, nous, aucun être humain ne peut assumer, je dirais ontologiquement, un autre être humain. Ça reste simplement moral, si vous voulez. Je peux donner ma vie. Le Christ, c'est différent. Le Jésus, c'est le Verbe incarné, c'est-à-dire la personne divine en qui nous avons été créés. Donc, il n'y a aucune extériorité entre le Christ, entre Jésus et nous. Voyez, c'est pas un individu de plus. Bien sûr, il existe dans une humanité individuelle, individuée. Il a pu être compté par le recensement de César, Auguste, etc. Mais, et c'est ça le mystère du Christ, vous voyez, il va chercher l'homme comme créateur au tréfonds même de son humanité. Et c'est ce qui explique cette chose étonnante et bouleversante, c'est que, imaginez quand Saint François Xavier est arrivé au Japon, dans d'autres parties de l'Asie, et qu'il prêchait Jésus, en plus avec des traducteurs très mauvais, oui, c'est ça, et leur parlait d'un homme qui avait vécu dans un endroit qui était irreprésentable à l'époque. C'était comme... Ça n'a rien à voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans un monde mondialisé, on prend des avions, on est au courant de ce qui se passe, on sait qu'il y a eu un typhon aux Philippines, etc. Mais à l'époque, c'était comme parler aujourd'hui de Mars, pour ces Japonais, que d'entendre parler de quelque chose qui s'était passé en Israël. Ils étaient incapables même de se le représenter dans une carte. Comment ça se fait qu'ils se sont convertis? Et qu'ils ont donné, 30 ans après, ils donnaient leur vie pour Jésus et ils mourraient crucifiés. Vous comprenez? Il y a une puissance dans l'Esprit Saint qui fait que quand on annonce Jésus, quand on lit son évangile, etc., tout être humain se reconnaît et rejoint, non pas par un mode culturel, historique, etc., etc., il est rejoint par le tréfonds de lui-même. Que c'est le Verbe. Et ça, c'est le mystère du Christ. Saint Paul le dit dans, je crois que c'est dans l'Épître aux Colossiens, le Christ parmi vous, c'est le mystère du Christ. Il est étonné de voir que dans les païens sont rejoints par le Christ. Mais parce que c'est le Verbe créateur. Ce n'est pas le Verbe créateur qui est le même que celui qui parle, qui est Jésus. Ça ne peut pas marcher, vous voyez. Donc, la personne divine du Fils qui dépasse et en même temps embrasse toutes les personnes humaines. La personne de Jésus n'est pas close comme un individu humain. Entre les individus, il y a une part d'incommunicabilité. Même dans l'amour humain, il y a cette incommunicabilité ontologique qui fait que un individu humain, une personne humaine, ne sera jamais une autre personne humaine. Elle ne pourra jamais rejoindre ontologiquement l'autre. Jésus, c'est différent. Il nous inclut, voyez. C'est une véritable inclusion. C'est pas seulement moral. Ça va jusqu'à l'être lui-même. Voyez aussi ce que dit le numéro 468 dans le catéchisme. Il n'y a qu'une seule hypostase ou personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ, un de la Trinité. C'est une définition du cinquième concile œcuménique. Tout dans l'humanité du Christ doit donc être attribué à sa personne divine comme à son sujet propre. Non seulement les miracles, mais aussi les souffrances et même la mort. Citation de nouveau d'un concile d'Éphèse. Celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai Dieu, Seigneur de la gloire et un de la Sainte Trinité. Un de la Sainte Trinité est mort et a souffert pour nous dans la chair. Dans la chair. Vous voyez, après au numéro 469, le catéchisme cite un texte de la liturgie orientale, mais qui est tiré d'un concile aussi, où il est dit que toi qui es de la Trinité, qui est devenu songe et qui est devenu homme sans changement, en grec apreptos enanthropises, qui est devenu homme sans changement. Voilà, je vais voir s'il y a encore une ou deux choses et je voudrais vous donner la parole plus largement. Donc on termine ici. Donc ce n'est pas un individu, c'est pour cela, je continue toujours au numéro 15, c'est pour cela que selon le très sage Cyrille, le nom du Christ ne comporte pas de possibilité de définition. Il n'est en effet ni une forme attribuable à plusieurs entités différenciées par le nombre, ni l'essence de quelque chose comme nous, homme, s'applique à chacun de nous, vous voyez, à une multitude d'individus. Il n'est pas non plus un individu que l'on pourrait ramener à une forme ou à un genre, ni circonscrire dans son essence par genre et différence. Mais il est une hypostase composée, unissant en elle la différence naturelle entre les extrêmes et l'amenant à l'un par l'union de ses propres parties. Et donc, Maxime refusera contre les monophysites mono-énergistes et monothélite que représenté ici dans le dernier texte 17 par Pyrrhus, que les propriétés des natures entrent en composition dans le Christ. Les propriétés des natures, dit Pyrrhus, n'ont-elles donc pas comme les natures quelque chose de commun? Maxime, rien si ce n'est l'hypostase des natures elles-mêmes, de même que le Christ lui-même était sans confusion. L'hypostase des natures. Je vous donne maintenant la parole, parce que nous avons jusqu'à quand? Moins 10, c'est ça? Oui. À 6h pile, parce qu'on a commencé à 10, donc ça va. Bon. Donc nous avons une demi-heure, et comme il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a toutes, vous n'avez pas pu poser largement des questions sur les questions du motif de l'incarnation, du dessein de Dieu, etc., tout ce qu'on a vu au début, et maintenant sur l'union hypostatique. Vous voyez que nous sommes en train de voir le Christ comme devenant cet instrument de salut, ce sauveur qui nous sauve en prenant une chair comme la nôtre pour, à travers elle, accomplir notre salut. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Sans crainte, il n'y a pas de questions bêtes. Toute question est une recherche de vérité. Oui.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit à la fin, sur comment dire, le fait que le Christ puisse mériter pour nous, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas uniquement selon la grâce, mais c'est selon vraiment comment dire, la transmission de son être. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. J'aimerais que vous reveniez là-dessus pour justement préciser, parce que effectivement, on a l'impression d'une. Parfois, dans les Écritures, etc., d'une espèce de pédagogie de Dieu qui renvoie son Fils pour nous racheter. Mais ce n'est pas de la comédie, c'est pas, il y a quelque chose qui est fait dans l'être, dans l'existence même de l'homme qui a été racheté. J'aimerais que vous nous disiez un peu comment, enfin, justement, puisqu'il n'est pas un individu, comment le Christ a pu.
Ça va se traduire par un certain nombre de choses. Par exemple, déjà. Une science infuse que vous étudierez en christologie avec le père Gilles, chez saint Thomas, entre autres, qui est un de ceux qui la formule le plus, mais elle est dansée dans le catéchisme, hein, je pourrais vous citer les passages. Le fait que saint Paul puisse dire dans l'épître aux Galates, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Paul n'a jamais connu Jésus avant sa résurrection. Il dit qu'il ne l'a pas connu selon la chair. Il l'a vu ressusciter sur le chemin de Damas, mais pas avant. Or, il dit, il m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est vrai qu'il dit ailleurs, il nous a aimé, s'est livré pour nous, collectivement. Mais il va jusqu'à oser dire, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Cela veut dire que pour Paul, et c'est la doctrine de l'Église, le Christ nous a tous connus, vous vous rendez compte ce que ça suppose, tous les hommes de tous les temps, nous a tous connus dans le mystère de sa passion. Et très particulièrement d'ailleurs dans le mystère, je pense, dans le mystère de Gethsémani. Tous connus personnellement. Ça a amené Pascal à dire cette phrase qui a été souvent répétée, mais qu'on n'ose plus tellement dire aujourd'hui. Jésus dit, dans le mystère de Jésus, dans les pensées de Pascal, j'ai versé telle goutte de mon sang pour toi. C'est évidemment une métaphore. Hein, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut exprimer cette même réalité. C'est que Jésus nous a connus personnellement, ce qui suppose une science infuse, stupéfiante, évidemment. Stupéfiante. Une dilatation étonnante, qui, de même que quand il connaît le cœur de l'homme, etc. Mais le corps de l'homme, ben, ce n'est pas seulement ceux qu'il connaissait, qu'il rencontrait, mais ça se dilate. Au niveau du temps et de l'espace. Et c'est ça qui fonde ce que je disais pour les Japonais du temps de. Les Asiatiques, plus du temps de François-Xavier. C'est que ils étaient rejoints, mais ils se sentaient rejoints, mais parce qu'ils avaient été rejoints. La rencontre du Christ nous ramène à ce mystère de l'heure de Jésus où il rejoint vraiment tout homme dans l'offrande de sa vie. Et, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement les apôtres, c'est toute l'humanité. Nous sommes les siens. Quand il dit les brebis écoutent ma voix, etc., ces brebis, c'est tous les hommes. Ils reconnaissent la voix du berger. C'est-à-dire, il faut aller jusqu'à cette inclusion ontologique. Voyez, de... Alors, ça passe, dans le cas du Christ, du côté de la connaissance, par une science infuse qui fait qu'il a autant pour Jésus aurait pu utiliser la science infuse pour savoir l'astronomie et tout ça, mais il n'avait pas à s'embarrasser de cela. Là, il est le charpentier de Nazareth, il a la culture qui était la sienne, je dirais, pour tout ce qui ne touche pas le mystère de la rédemption. Mais tout ce qui touche le mystère de la rédemption, c'est-à-dire la connaissance du Père, la vision béatifique et le dessein bienveillant de Dieu, alors là, la science infuse est à plein. Et les évangiles en témoignent. Ou alors, on ne les prend pas au sérieux. Mais si on prend au sérieux ce qui est dans l'évangile, on voit très bien qu'il y a une science infuse absolument stupéfiante, qui va bien au-delà de celle des prophètes, qui avait un peu de science infuse prophétique pour telle ou telle chose qu'il devait dire. Mais là, le Christ, c'est vraiment... Et cette parole de Paul, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi », mais je ne l'ai jamais rencontré. Donc il m'a connu. Je pense que c'est très important, voyez, même pour la mission. C'est une base très importante. Pensez à ce que Paul entend, vous savez, quand il arrive à Corinthe, dans les Actes des Apôtres, il vient d'essuyer l'échec monumental de l'Aréopage d'Athènes. Et il arrive à Corinthe, le pauvre, il n'emmène pas large, il est angoissé. Et alors là, Jésus lui apparaît dans un songe, et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit... Prêche, annonce, moi, parce que j'ai à moi un peuple nombreux à Corinthe. Il ne lui dit pas acquière-moi un peuple. J'ai à moi un peuple nombreux. J'ai à moi. Parce qu'il est le créateur, le verbe créateur, et parce que la grâce opérante qu'il a méritée pour tous les hommes est à l'œuvre en tout homme. Et donc, ils sont déjà à lui. Ils sont travaillés par cette grâce. Et si quelqu'un leur annonce le Christ, et si eux ne ferment pas leur cœur, eh bien, ça, ils vont être rejoints au plus profond d'eux-mêmes. Vous voyez que c'est toute la dimension même de la mission qui trouve ici son fondement dans le mystère du Rédempteur. Ça va très loin. Si on fait de Jésus un individu humain, une personne humaine, à ce moment-là, il n'a plus qu'une relation morale qui va passer comme si je vous parle de Platon, si je parle de Platon, il va falloir que j'explique que c'était un philosophe en Grèce et que la Grèce est un pays d'Europe et qu'il s'est passé ceci et cela, qu'il y a eu une histoire culturelle. Et il faudra des médiations très très longues pour expliquer Platon à l'autre bout du monde. C'est pas impossible, parce que Platon a quand même atteint des vérités universelles. Et donc, par ce biais-là, ça finit quand même par intéresser. Mais c'est quand même... Les médiations sont compliquées. Dans le Christ, il se produit autre chose, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint, ça aussi. Vous voyez ce que dit Paul pour le chemin de Damas, au début de l'Épître aux Galates. Quand Dieu daigna révéler en moi son fils. Le père de Lubac était très impressionné par ce « en moi ». Non pas « à moi », mais « en moi son fils ». C'est-à-dire que la révélation, elle est extérieure, puisqu'il y a eu un signe charismatique, il a vu une grande lumière. Le cheval, on l'a ajouté, ce n'est nulle part dans les Actes des Apôtres. Il y a, je ne sais pas combien de récits, trois ou quatre récits de la conversion de Paul dans les Actes, Dans aucun, il y a le cheval. Je ne sais pas pourquoi. C'est les peintres qui ont imaginé qu'il y avait un cheval et qu'il est tombé du cheval. Là, il y a le très beau tableau du Tintoret à Rome, pas du Tintoret, de l'autre, là, celui qui est aussi à celui des Français, le Caravage, à la place du peuple. Et donc avec Polk tombé du cheval, etc. Non, il n'y a pas de cheval. Et il n'est même pas dit qu'il a vu Jésus. Il a vu ce que disent les actes, les différents récits, une grande lumière et la voix de Jésus. Et lui dit que Dieu a révélé en moi son Fils. C'est-à-dire, voyez, c'est l'expérience d'Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est en moi, c'est-à-dire que je lui appartiens. C'est par le fond de moi-même, c'est pas quelque chose qui m'est hétérogène. Soudain, c'est en moi. Donc, le révéler lui, c'est en même temps me révéler moi-même. Je suis révélé à moi-même, puisqu'il est le Fils, et je suis révélé à moi-même comme fils adoptif de Dieu. Vous voyez, ça a des conséquences très, très, très importantes qui font que c'est quelque chose de tout à fait différent d'une ontologie unique qui est ce mystère du corps du Christ. Vous savez que pour Paul, les paroles du Christ sur le chemin de Damas ont fondé toute sa doctrine du corps mystique. Parce que Jésus dit, pourquoi te persécutes-tu? Or, il ne persécutait pas le Christ. Le Christ, pour lui, il était mort et enterré. Il ne pouvait pas le persécuter. Il persécutait les chrétiens. Mais Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc cette inclusion des hommes dans le Christ, comme verbe créateur incarné, c'est quelque chose qui... De crucial pour Paul, hein. Et la doctrine du corps mystique du Christ, c'est pas seulement pour l'Église dans ses frontières visibles. C'est quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est une action de grâce opérante sur les hommes de tous les temps, y compris des temps qui ont précédé le Christ, attirant tout vers lui. Et par lui vers le Père. Et ça, c'est ce que vous trouvez, si vous lisez attentivement, c'est ce qui se trouve dans le catéchisme. Vous avez les deux passages que je vous ai lus, sont très significatifs. D'autres questions? Ça peut être des questions aussi sur le dessin, hein, sur le chapitre précédent. Pardon, je fais attendre un peu les questions. J'ai répondu aux questions les plus urgentes qui intervenaient en cours de route, mais j'ai fait un peu attendre les questions générales parce que je voulais, avec le Père Gilles, on a oublié. On voulait vous prévenir à midi pour que vous ayez le temps de les préparer. Mais bon, je pense que maintenant, pour la dernière partie qui va porter sur les deux volontés du Christ, nous reste quand même... jeudi et vendredi, donc il nous reste 4 heures, on sera plus paisible, et donc il y aura plus de temps pour les questions. Donc vous préparez si vous avez des questions. Mais je regrette, il fallait que je vous donne les grandes armatures, parce que sinon vos questions, elles n'allaient pas porter sur le sujet. Enfin, elles allaient porter sur le sujet général de la christologie, mais là, il fallait que je vous donne d'abord du contenu pour que... Les questions portent sur que vous ayez les textes, etc., qu'il vous ait été un peu expliqué. Mais soudain, je vois que vous restez silencieux, alors que pendant que je parlais, je sentais qu'il y avait beaucoup qui auraient voulu poser des questions. Oui. Et pour l'humanité de Jésus. Je veux dire, D'abord, elle n'existait pas avant l'incarnation. L'humanité de Jésus, elle n'existait pas. Et puis, elle a commencé à exister unie au Verbe. Donc, c'est quand même du nouveau. Il y a une nouveauté dans l'incarnation, mais elle est du côté de la nature assumée de Jésus, la nature humaine assumée de Jésus, et non pas du côté de la personne du Verbe. Voyez? Mais il y a une nouveauté, pas seulement pour nous, mais une nouveauté du côté de l'humain de Jésus, qui n'existait pas et qui existe. C'est quand même pas, c'est pas rien. Et qui existe uni au Verbe. C'est là qu'est la nouveauté.
Et quand par le Christ, quand l'homme est divinisé, je ne sais pas si mes propos sont justes, sont
Oui,
évidents.
quand l'homme, ça voulait dire nous ou Jésus, l'humanité de
Non,
Jésus.
l'humanité, quand l'homme, nous,
Nous.
est divinisé par le Christ, qu'est-ce que ça fait en fait?
Ça ne fait rien au verbe. Ça ne fait rien au verbe. Le verbe, il est Dieu, il est tout. Saint-Irénée a une très belle formule, il dit, c'est lui qui a apporté toute la nouveauté en apportant sa personne. C'est pas lui qui connaît une nouveauté, c'est que lui est la nouveauté dans sa personne. Et quand il s'incarne, il apporte toute la nouveauté. Et il vient en nous par la grâce, il apporte toute la nouveauté de Dieu. C'est lui qui sans cesse nous transforme. Et lui ne se transforme pas. Et vous voyez, c'est là où tout se tient aussi avec le traité de Dieu, avec le traité des perfections divines. Sinon, si on fait un Dieu qui n'est pas vraiment Dieu, ou si Dieu cesse un peu d'être Dieu dans l'incarnation, c'est un peu embêtant. Je vois très bien le fond de malaise, chaque fois que j'explique ça dans des enseignements. Je sens très bien le malaise, c'est que on a l'impression que du coup, ça devient moins réel. Mais non. C'est parce que Dieu est actualité pure. Nous pensons l'immutabilité divine comme quelque chose d'inerte. Nous le pensons comme une espèce de bloc inerte. Vous voyez, l'inertie, c'est l'immutabilité par le bas, celle de la matière, d'une matière. Une espèce de bloc, imaginez un bloc de granit, voilà, qui est inerte, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à l'entamer, il est très dur, il ne bouge pas, il est très lourd à transporter, etc. C'est une inertie. Et vous imaginez une inertie absolue, vous dites c'est ça l'immutabilité. Parce qu'effectivement, au plan matériel, comme notre connaissance dépend toujours du sensible, c'est de ce côté-là que nous pensons l'immutabilité. Mais l'immutabilité divine, c'est l'immutabilité de l'acte pur. C'est-à-dire d'une perfection comme une sorte de jaillissement éternel, voyez, dans lequel tout est acte. Donc, si vous voulez, tout ce que vous mettez de positif dans l'idée de nouveauté se trouve en Dieu, mais non pas de manière transitive, mais de manière éternelle. Et c'est ça, l'immutabilité divine. C'est un peu, si vous voulez, comme si vous. Je vais parler métaphoriquement, mais ça donne un peu une idée. Dans une source jaillissante, imagine une source où il y a un jet d'eau extrêmement puissant, comme celui du lac de Genève, qui jaillit. Vous puisez de l'eau, vous ne voyez aucune trace de ce que vous avez pris. Parce que tout est jaillissement et donc ça ne laisse aucune trace. Vous ne l'entamez pas parce que c'est un pur surgissement. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme une sorte d'éternelle jeunesse. Mais chez nous, la jeunesse, elle est transitive. Vous ne le savez pas encore, mais vous le découvrirez. C'est une expérience. Voilà, elle est transitive. En Dieu, non. Pour moi, ça a été une découverte extraordinaire dans mon noviciat. Notre Père Maître nous a fait une très belle méditation devant l'icône de la Trinité de Roublev. Parce que comme occidental, les seules représentations de Dieu que j'avais, c'était un vieillard barbu. On représentait le Père éternel comme un vieillard barbu. Ce qui est quand même un peu le. Bon, c'est peut-être le grand âge, l'ancien des jours du livre de Daniel, mais un peu vu par la vieillesse, donc par un certain déclin. Et soudain, de voir ces trois anges de Roublev, de l'hospitalité d'Abraham, qui sont dans une telle fraîcheur, où là, j'ai compris quelque chose, de manière sensible, c'est que Dieu était cette éternelle jeunesse de la vie, d'un acte vital, qui est totalement un acte pur, dans lequel il n'y a aucune potentialité, parce que tout est donné, tout est acte, tout est don, tout est. Et donc on ne peut rien lui enlever parce que tout est là, à l'état de don. Et donc c'est comme ça qu'il faut penser quand nous disons qu'il n'y a pas de nouveauté, etc. Mais c'est parce que le Verbe est la nouveauté. Il est nouveauté, il est nouveauté non pas dans ce que le mot nouveau a de transitif et donc de passager, mais nouveauté en tant que surgissement de l'être en acte. Parce que la potentialité est toujours signe de transitivité, de déclin, etc. L'acte, c'est l'acte pur. Est-ce que vous avez médité sur ce que c'est l'acte pur? C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'acte, il n'y a pas de puissance. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de devenir. Mais vous voyez, le devenir est toujours un passage vers l'acte, de la puissance à l'acte. Mais quelqu'un qui est l'acte pur ne peut pas avoir de devenir puisqu'il est acte. Mais il a toute la richesse que nous mettons dans le devenir. Parce que ce qui nous intéresse dans le devenir, c'est le fait d'aller vers l'acte. De passer de quelque chose qui est en puissance à quelque chose qui est en acte. Et en Dieu, il est acte pur, donc il ne peut pas devenir parce qu'il est ce que le devenir nous donne comme accès à l'acte. Lui, il l'est. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose d'inerte, de mort. C'est comme les gens qui disent, mon père, j'ai peur de m'ennuyer au ciel. Parce qu'ils imaginent une sorte de spectacle figé, peut-être très beau, mais enfin, voilà, c'est là, c'est Dieu. Et puis alors, la vision béatifique, aïe, 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 au bout d'une demi-heure ou de quelques heures, c'est un peu ennuyeux, vous comprenez? Nous avons des idées très pauvres. Le traité de Dieu est très important, je vous assure. Ne pas avoir une idée pauvre de l'éternel, de celui qui dit je suis celui qui suis, et qui comment il se manifeste dans un buisson ardent et qui brûle sans se consumer. Quelle image extraordinaire de l'acte pur! C'est un acte, le feu. Mais normalement, le feu, vous savez bien ce que c'est, hein? Ça va très vite, il se consume et puis pouf! La belle flamme de la nuit pascale, au début, il y a, vous savez, et puis après, très vite, hein, il n'y a plus rien, il y a des cendres. Ça, c'est un acte transitif. Et dans le buisson ardent, il brûle sans se consumer. Voilà, là, oui, effectivement, on a une image de et c'est dans ce buisson ardent que Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et celui qui vient, Jésus dit, je suis. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans votre péché. Que je suis. Ego et mi, c'est le nom même de Dieu. C'est Dieu dans cette actualité pure. C'est fondamental.
Peut-être que vous le développerez avec les deux volontés du Christ, mais cette double nature, moi je m'interroge souvent sur possibilité de Jésus comme homme d'avoir conscience de sa divinité. Jusqu'où il a découvert sa mission et jusqu'où, en fait, il avait pleine connaissance.
Alors, je ne peux pas le développer ici parce que c'est... Mais c'est un chapitre dans mon livre. Hein. Il y a un chapitre entier. Après les volontés, il y a l'intelligence. Pourquoi je l'ai traité après, alors que dans l'ordre des raisons, normalement, ça aurait dû revenir avant. Mais connaissance et conscience de soi dans le Christ, hein, c'est exactement ce que vous dites. Mais on peut le développer à partir de ce qui a été développé pour les volontés. Parce que c'est un domaine qui a été moins étudié par les pères. Je pense que ils avaient moins le sens de la conscience, peut-être, que nous avons au sens subjectif, et donc ça a été moins étudié. Donc je l'ai développé après. C'est page 141. La connaissance et la conscience de soi exercé par le Verbe incarné. Et on y viendra peut-être, oui, je ferai certainement une allusion. Mais voyez, réfléchissez un instant. Le Verbe incarné, vous croyez que le Verbe incarné, soudain, c'est-à-dire le Verbe fait homme, le Fils de Dieu fait homme, soudain se dit « Ah, oh tiens, j'étais le Fils de Dieu, je ne savais pas. » Vous pensez que c'est... Regardez ce que Jésus, à l'âge de 12 ans, on dit souvent, c'est à l'âge de 12 ans, vous savez, on le rattache souvent au recouvrement au Temple, que Jésus, à ce moment-là, aurait découvert qu'il était le Fils de Dieu, puisqu'il dit « Je me dois aux affaires de mon Père. » Mais comment il le dit? Marie vient vers lui et lui dit, c'est d'ailleurs même assez cruel la manière dont il le dit, parce que Marie lui dit, ton père et moi, nous te cherchions dans les larmes. Et Jésus lui dit, ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père? Déjà, il y a ton père, Saint-Joseph, adoptif, et mon père, Dieu. Et la rupture. Elle vient de parler de son père, Saint-Joseph, et lui parle de son père des cieux. Mais le plus intéressant, c'est qu'il utilise un imparfait. Il ne dit pas, ne savez-vous pas, je me dois aux affaires de mon père, c'est quelque chose de nouveau. Un imparfait, ne saviez-vous pas, mais vous devriez le savoir. C'est le mystère de ma naissance que vous connaissez. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'il est en train de découvrir. Sinon, il n'utiliserait pas l'imparfait, il utiliserait le présent. Quand quelque chose de nouveau surgit, vous le dites au présent. Si vous le dites à l'imparfait, c'est que vous et moi, hein, nous savions. C'est depuis ma conception. Alors, comment sait-il? Forcément, il le sait d'une manière qui n'est pas la nôtre, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on dit que Jésus avait une humanité comme la nôtre, hormis le péché. Le « comme la nôtre », si elle veut dire que dans le Christ, il y a tous les éléments naturels de notre nature, bien sûr. C'est-à-dire qu'il avait un corps et une âme, que son âme avait une intelligence et une volonté. Si on veut dire qu'il exerçait ça comme nous, pardon, mais non. Parce que, excusez-moi, mais notre humanité, elle ne se balade pas sur les flots de la mer de Galilée. Elle ne connaît pas les secrets des cœurs. Par tous les bouts, on voit bien qu'il y a un exercice des mêmes facultés qui sont les nôtres, selon une modalité dans laquelle intervient la science infuse, etc., et une puissance dominatrice sur les éléments qui font que les éléments lui obéissent, etc., qui montre que Il a une nature comme la nôtre, mais ce qui passe à travers cette nature n'est pas ce qui passe à travers la nôtre, hein. Il passe autre chose. Et c'est ce que les pères disent quand ils disent que le Christ n'est pas un pur homme. C'est le Verbe de Dieu fait homme. Alors il l'est à travers une nature qu'il a assumée, mais celui qui assume n'est pas un homme. Et donc celui qui est le sujet de cette humanité n'est pas un homme. Et donc il donne à cette humanité un mode d'exercice qui est surnaturel, qui a toute une part d'éléments surnaturels. Et ça, c'est ce qui apparaît dans la Transfiguration. Quelqu'un avait mais il y avait quelqu'un d'autre. Non, c'est vous. Vous vouliez encore
Je
terminer
voulais
votre
avoir
question.
une question de ma
Oui.
licence. Si on parle de cette connaissance de Jésus, selon cette nature autre qu'il a, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté qui doit être, enfin, qui doit être, en tout cas, moi, je perçois quand même comme une liberté humaine,
Alors,
une obéissance à son Père
alors
et aussi à une valeur
ça, c'est ce que nous allons voir
d'exemple.
demain. Ce que nous allons voir, justement, voyez le titre de ce recueil, c'est l'instrumentalité du libre arbitre humain du Fils fait homme. Mais je laisserai encore dans les 4 heures que nous aurons le temps de voir la volonté humaine de Jésus et sa liberté, et aussi de vous laisser du temps. Donc, quand vous avez des questions, notez-les et gardez-les et préparez un moment de questions. Je vous recommande vraiment beaucoup la lecture du livre de Schoenberg.